Où va l'industrie ? Un podcast PTC.
Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, qu'est-on en droit d'attendre d'elle ? Comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque ? À travers ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0. Ensemble, découvrons l'impact de ces nouvelles approches et de ces technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Parce qu'en effet, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Bienvenue dans Où va l'industrie, le podcast qui interroge le futur pour agir au présent par PTC.
Bonjour, je suis Sébastien Letoré, directeur des partenariats de PTC France. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'endosser le rôle d'intervieweur et de recevoir Bertrand Félix, le cofondateur de La Ruche Industrielle, qui est un collectif d'entreprises industrielles dont PTC est membre depuis plusieurs années. Bonjour Bertrand et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, on va aller directement au cœur du sujet. Est-ce que vous pourriez nous présenter La Ruche, ses enjeux et ses moyens ?
Donc La Ruche, c'est un collectif d'industriels qui se sont réunis pour mieux transformer l'industrie, pour ne pas être seul. Et l'idée, c'est d'être une usine à projet, c'est-à-dire identifier des irritants communs, des problématiques qu'on rencontre tous les jours dans l'industrie, qui les empêchent de dormir la nuit, comme on dit, et d'y apporter des solutions sous forme de projets, à la porte d'expertise.
Alors justement, j'ai été intrigué par le logo en alvéole, avec trois couleurs, jaune, bleu et vert. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Alors oui, le logo, alors maintenant, ça fait 5 ans, on est une entreprise vintage, comme on dit. On n'est pas peu fiers, puisqu'on a eu cette vision dès le début. Et l'idée, c'était de connecter trois mondes, trois alvéoles. Donc la première, en effet, le bleu, on a commencé par ça. C'est la technologie, c'est l'apport de la technologie dans les entreprises modernes. Et très typiquement, on peut parler de transformation digitale des usines ici. Toujours, c'est des cas d'usage puissants. Ça, c'est pour le bleu. Le jaune qui en découle, c'est on passe vers les hommes et les femmes. Donc on va dans le territoire des RH, du management, des compétences. Donc on parle d'hommes et d'organisation. Et enfin le vert qui parle de lui-même au niveau de la couleur, c'est de rendre l'industrie plus durable et plus circulaire.
Et donc Bertrand, quels sont les membres de La Ruche ?
Alors les membres de La Ruche, ce sont des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, surtout. Donc on a des entreprises qui ne sont pas du même secteur. Donc, par exemple, Aldès, Olot, EFI sont des entreprises de taille intermédiaire dont les sièges sont basés à Lyon, donc qui ont un pouvoir de décision et une volonté de transformation. On a aussi la chance dans La Ruche d'avoir donc des filiales fortes de grands groupes tels que Bosch Rexroth, hein, tels que Volvo, tels que SNCF, FIV, JTECT, Nexter KNDS. Groupe Seb, alors groupe Seb, c'est du ce qu'on appelle du B2C hein, directement le consommateur final. Et là, on est aussi sur une maison mère. On travaille aussi avec Montaber et on a la chance aussi d'avoir des écoles qui ont cru au modèle et qui collaborent avec nous tant au niveau des labos que des étudiants, hein, parce que les étudiants c'est la relève. Et donc là, on a l'INSA de Lyon, qui est l'INSA Valor aussi pour toute la logique de formation. On a l'ECAM. La salle, et on a l'école centrale de Lyon qui récemment a opéré un merge avec les Zénith de Saint-Etienne. Donc ce qui nous permet d'aller couvrir jusqu'au territoire de Saint-Etienne. Et ça c'est absolument important. Et du coup, en parlant du territoire, on s'entoure aussi d'acteurs académiques tels que la métropole du Grand Lyon. Dans nos collaborations, on s'entoure aussi d'acteurs qui portent cette bonne parole jusqu'à Grenoble.
C'est vrai que pour PTC, c'est une vraie chance d'être dans la liste de ce collectif. C'est une vraie chance pour nos équipes aussi de bénéficier d'un cadre extrêmement précieux au développement de nos projets. Ça va être ma question, Bertrand. Qu'est-ce qui fait que La Ruche soit aussi fertile ?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une unicité c'est une bonne règle, c'est comme un bon jeu, hein, les Monopoly, il a duré 20 ans ou 30 ans, parce qu'il y avait une règle qui était claire, et puis qui était à la fois ludique, mais qui apportait du cadre. La Ruche, c'est le côté ébouriffé, il y a l'innovation, il y a de l'exploration, mais en dehors, hein, c'est comme le cygne, hein, Ça paraît tout feu tout flamme sous l'eau, mais en dehors de l'eau, il y a la majesté, c'est lisse, c'est propre. Ben, c'est exactement ça. Nous, dans notre cas, la ruche, il y a des processus qui sont cadrants, qui nous permettent de capturer les irritants, les problématiques de chaque industriel, et d'apporter des réponses. Et ces réponses-là, et là-dessus, c'est un point vraiment essentiel, c'est que tous les acteurs qui échangent le font sur un pied d'égalité. Et alors, évidemment, la logique de non-concurrence nous permet vraiment de créer une intimité. C'est aussi un mot important pour nous à la ruche. Une bienveillance, malgré l'usure du mot, ça reste quand même absolument essentiel. Par contre, le pied d'égalité, ça va être entre des entreprises de tailles différentes, de secteurs différents, mais aussi entre différentes personnes qui ont des fonctions différentes.
Et pour vous, c'est ce qui fait la clé de la réussite de collaboration ?
Oui, et d'autant plus que si on rajoute un ingrédient dans la mayonnaise, qui est ce que nous appelons les partenaires technologiques, que certains appellent les fournisseurs, nous on permet à ces partenaires technologiques de se raccrocher à nos besoins technologiques et à nos projets, et de jouer ce qu'on appelle à quatre mains, sur encore une fois un pied complet d'égalité, ce qui nous permet, en tant que communauté, d'avoir les meilleurs experts, qu'ils soient sur le territoire français, en Europe ou même jusqu'aux États-Unis avec vous et à l'étranger, de qu'ils puissent contribuer à nos projets. Et quand on vise le sommet de l'Everest, il faut y aller avec les meilleurs.
Moi, je voudrais revenir sur les défis globaux. Et typiquement, utiliser peut-être le défi qui est global, qui est le plus important, celui du défi écologique, pour que vous nous expliquiez concrètement l'apport de la ruche et ce que vous faites justement pour répondre à ces... À ces énormes problématiques.
Alors en effet, la problématique du durable et de l'environnement, c'est tout à fait cœur. Alors nous, on a plusieurs projets qui trouvent leur place là. On a l'optimisation énergétique des bâtiments et des processus industriels. Et là, si vous me posez la question, quels industriels ou membres de la ruche en font partie ? La réponse, elle est simple, c'est tous. Voilà, on a démarré septembre 2023, vous vous rappelez de la période. Tout le monde avait le nez sur « mais comment vais-je trouver des solutions à la fois à court terme et long terme pour réduire la facture énergétique ?» Donc soit des solutions ultra pragmatiques court terme, et là on peut être sur « tiens, comment est-ce que je bascule sur l'intégralité de mon shop floor usine en LED ? Comment je vais mieux isoler mon usine ? Comment je vais m'assurer que telle et telle machine ne continue pas à fonctionner le week-end ?» Des fois c'est aussi bête que ça, hein. Évidemment, ça passe par la formation des collaborateurs ou l'information, la sensibilisation. Vous mettez le mot qu'il vous faut, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc des règles d'or, mais aussi provoquer des nouveaux réflexes. Et par là, ça signifie aussi provoquer des vocations chez les collaborateurs et qu'ils puissent intégrer certains projets qu'eux, ils pousseraient avec des nouvelles idées. Alors là, pour le coup, c'est des projets de moyen terme. Par exemple, comment mieux piloter sa ligne industrielle dans son ensemble pour moins consommer entre plusieurs usines, cette fois-ci, et pas juste à la machine. Ça va être aussi de faire ce qu'on appelle du monitoring. Donc là, on s'appuie beaucoup sur des solutions beaucoup plus avancées, de capteurs, de numérique, de cockpit et de tableau de bord, hein, qu'il faut savoir créer, puis interpréter et maintenir. Voilà, donc tout ça, ça ne se décrète pas. Il ne faut pas claquer du doigt, mais ça se soutient.
Et Bertrand, mais pourquoi un industriel, il a besoin de vous pour ça ? Pourquoi il ne le fait pas tout seul ?
Alors, il le fait tout seul, mais jusqu'à un certain point. Et le très bon exemple que j'ai en tête, alors je n'ai pas cité l'entreprise parmi les membres, mais donc il y avait un des membres industriels qui avait travaillé longuement, hein, plus de 4 ans, sur, alors pas forcément que l'optimisation énergétique, mais par exemple sur sa transformation digitale et sur les règles et les projets qu'il fallait mettre en place pour avoir une continuité numérique de bout en bout. Et au bout de 4 ans, ils se sont rendus compte qu'ils avaient travaillé entre soi. Donc ça signifie quoi ? Ils avaient très bien travaillé, mais il leur manquait en fait le sparring partner, il leur manquait l'équipe d'en face de foot ou celui qui vous renvoie la balle au tennis ou au ping-pong. À savoir qu'ils avaient élaboré des stratégies, ils avaient pris des choix, ils avaient acheté des systèmes. Et en fait, ils avaient simplement pas pris des avis à droite, à gauche, industriels, bien évidemment, on parle de leur père, qui leur avait permis de trier ou de se faire challenger, ou alors carrément de fermer certaines voies qui étaient sans issue, sur lesquelles ils auraient perdu beaucoup moins de temps, et là je parle peut-être même de 6 mois jusqu'à 1 an à chaque fois, ou moins coûteuses, ou plus performantes, ou même des voies, encore une fois, où c'est bon d'y aller à plusieurs. Et il y a plusieurs, ça signifie réunir des fonctions métiers, des RH, on l'a dit, des responsables de production, de logistique, qui, au lieu d'élaborer un besoin A, eh ben, viennent élaborer un ensemble beaucoup plus complet. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on gagne ? Un, du temps. Deux, des compétences. Et trois, de la massification, c'est-à-dire travailler à plusieurs, ça permet aussi d'acheter, de solliciter d'autres partenaires en étant ensemble plusieurs.
Mais ça doit être plus compliqué pour un industriel, justement, d'adresser un projet à plusieurs.
Alors ça, c'est notre partie. C'est là qu'on est expert à la ruche industrielle. C'est, on leur dit comme une célèbre enseigne que vous connaissez qui dit « Venez comme vous êtes ». C'est exactement ce qu'on fait. On ne leur demande pas de prendre à leur charge la complexité de la collaboration. Nous, on en est experts. Donc ce qu'on leur demande, c'est de venir. On leur demande d'avoir un cas d'usage, donc d'application très précis. On leur demande d'être engagés. En tout cas, on la crée aussi, cette énergie et cet engagement. Et l'idée, après, c'est qu'on leur dit « Soyez compatibles au travail à plusieurs ». Mais une fois qu'on a ça, nous, on a tous les ingrédients à la ruche pour créer une excellente dynamique, pour que les cas d'usage s'interconnectent, qu'on fasse venir les meilleurs, les experts, pour venir résoudre les problèmes. Et en fait, c'est là que ça se passe. Hein. C'est dans la dynamique, c'est dans l'interaction avec les gens. Et tout à l'heure, on citait un cas majeur dans le pilier vert, donc le durable. On en a un autre qui est très important, qui est ce qu'on appelle la circularité. Alors ça veut tout et rien dire. Si on le définit, c'est pour l'industrie, la circularité, c'est soit développer proche de chez soi, hein, développer son produit. Donc, au lieu de le faire en Chine, c'est de le faire proche de chez soi, avec le tissu local. Par exemple, on va le tester, on va le mettre sous contrainte physique, si c'est du métal, électronique, et que sais-je. Mais surtout, il y en a un autre qui est beaucoup plus parlant, c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième vie des produits.
Donc Bertrand, on a bien compris justement l'approche sur l'économie circulaire. Maintenant, concrètement, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'organisations comme La Ruche. Hein, il y a beaucoup d'associations à but non lucratif qui travaillent sur des projets. Et notre vision, nous, c'est que La Ruche est un vrai différenciant, un vrai fertilisant. Donc, pouvez-vous nous donner vraiment des exemples d'applications chez les membres industriels de ces projets ?
Oui, alors si j'en prends un par alvéole, par secteur, on va dire, sur la partie technique, donc l'alvéole bleu chez nous, on a suite au projet donc supervision connectée, notamment, ou encore une fois un autre exemple, le contrôle qualité par vision, par caméra. On a eu la chance d'avoir par exemple des structures comme Volvo qui ont pu très vite dans le mois qui a suivi le projet déployer des grandes quantités de capteurs pour monitorer leurs essais à froid de moteur par exemple ou à chaud, donc des kilomètres de galeries d'eau qui étaient difficilement accessibles et cette implémentation de capteurs, ils ont réussi à le faire en 3 mois malgré le Covid, avec des fonctions qui ne se parlaient pas avant. Donc très, très clairement, ils ont dérisqué à La Ruche, ils ont appris à fonctionner ensemble, et ils ont su mobiliser les bons partenaires.
Voilà. Et ça, vous nous confirmez que cet industriel, par exemple, avant La Ruche, il n'avait pas de solution ?
Très clairement, ils étaient bloqués. Et en plus, pour ceux qui connaissent les grands groupes, ça n'existe pas un projet en 3 mois, en 6 mois. On est sur une logique 1 an, 2 ans. Donc sans parler du résultat, si on parle de la temporalité, ça ne va pas aussi vite. Et là, je parle de la réalisation. Hein.
Et ça, vous le mesurez.
Ah oui, c'est typiquement mesurable, et les managers, la gouvernance de ces structures nous le font redescendre. Et d'autant plus qu'ils ne sont pas allés sur des voies de garage dangereuses ou des voies sans issue qu'auraient testé certains de leurs pairs. Donc ils ont gagné du temps en plus, même en amont de l'implémentation.
Donc avez-vous d'autres applications concrètes à nous partager ?
Oui, si on regarde ce qu'on appelle nous l'alvéole jaune, hein, donc rappelez-vous tout ce qui a trait à l'humain, la transformation des compétences, on a un exemple très précis sur le projet supervision connectée qui a donné lieu à un projet de mutation des métiers. Et donc en France et dans le texte, le recrutement des techniciens de maintenance qui sont aujourd'hui un vrai casse-tête pour les industriels. En gros, il y a beaucoup de demandes et il y a très peu d'élus puisque les gens ne vont pas postuler à ces métiers.
Valoriser l'image de l'industrie auprès des
candidats. Oui, ça passe par là. Ça passe par là. Donc c'est le premier niveau, ça. Mais après, il faut faire tout le reste. Il faut aller chercher les candidats, que ce soit dans les formations initiales ou les reconversions. Et là, typiquement, on l'a fait à plusieurs. On a travaillé avec un cabinet qui a compris, qui a décomposé le geste métier jour le jour d'un technicien maintenance. Et tout ça, on l'a imagé. On a utilisé des RH, des managers qui ont incarné tout ça. Et on est allé dans les lycées. On est allé au contact des gens voilà, qui ne savaient pas qu'ils voulaient travailler dans l'industrie. Mmh. L'idée, c'est de leur dire, l'industrie, c'est pas ce que vous croyez. Et surtout, ça réunit plein de super métiers dont la plupart ne sont pas appris à l'école. Voilà. Et ensuite, on a fait des campagnes de recrutement en commun. Et on a obtenu jusqu'à 15% de plus en termes de résultats par rapport à une entreprise seule. Et enfin, dans le pilier vert, l'économie circulaire. Donc là, on a vraiment pu faire des transformations fortes. Dans la ruche, on a des experts, des Rolls-Royce, hein, vous avez vu les noms, les Bosch, les Montaber, SNCF, ils connaissent bien leur sujet, ils le connaissent tellement bien qu'ils ne vont pas interroger leurs clients. Et nous, ce qu'on a pu faire dans le projet d'économie circulaire, et plus précisément sur le remanufacturing des pièces, donc donner une deuxième, troisième, quatrième vie aux produits, et les réintégrer dans l'usine et les retraiter, c'est d'aller co-construire avec des clients. Et le résultat tangible, c'est que Montaber, Gitect, Holot, par exemple, ont pu ressortir, alors ils avaient déjà bien entamé ces travaux chez eux, mais ils ont pu ressortir entre plus 20, plus 25% de produits remanufacturés par rapport aux produits neufs. Et ça, c'est une vraie manne.
Alors Bertrand, les industriels se transforment, on a beaucoup parlé, la ruche aussi. Comment voyez-vous l'évolution de la ruche ?
Au moins trois points. Il y a plusieurs projets à l'étude, mais au moins trois points. Le premier, c'est des pistes de massification. Donc on pourrait faire du recrutement en commun entre les membres industriels sur certaines fonctions bien précises, et on en a certaines en tête, croyez-moi. On a la rotation des talents aussi, amener leur expertise d'une usine à l'autre.
Une mutualisation de certains salariés entre industriels.
Tout à fait.
D'accord.
Ça, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a un collectif qui est prêt à le faire.
Et vous avez des exemples, ça existe déjà aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a des discussions très avancées entre le groupe Seb, Holot et le groupe Bosch.
Sur quel type de profil, par exemple ?
Ça peut être de la logistique, ça peut être, justement, on en parlait tout à l'heure, avec l'optimisation énergétique des techniciens d'énergie, ça peut être du moulage. Deuxième axe de développement, ce serait de rendre la ruche encore plus présente chez ses membres, de la délocaliser chez ses membres et de laisser un espace d'expression aux personnes de tout type hein, qui s'est transformé lors des projets de la ruche pour venir porter la bonne parole, des méthodes qui ont réussi, surtout des exemples concrets. Et le troisième point, eh bien, nous avons reçu des appels à créer d'autres ruches en France, dans différents territoires d'industrie. Et on les écoute, hein, et voilà, on a plein d'idées et ça se travaille tout ça.
Donc les abeilles vont de plus en plus loin, c'est ce que je retiens.
C'est ça.
Et pour être de plus en plus impactantes.
C'est tout à fait ça.
Parlons maintenant de l'actualité. Vous organisez un événement sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, au mois d'octobre. C'est un événement qui est un référent hein, sur le marché. Pouvez-vous nous en dire plus ?
En effet, il s'agit des XR Days qui vont se dérouler les 17 et 18 octobre à La Ruche. Donc 1300 mètres carrés, plus de 30 exposants, qu'ils soient industriels, partenaires technologiques, scientifiques ou partenaires territoriaux. Et l'idée, c'est de réunir tout ce petit monde pour zoomer en profondeur sur qu'est-ce qui permet de déployer les technologies de vision avancée, de continuité numérique et surtout quels bénéfices on peut en attendre pour les industriels.
C'est ça qui est intéressant, parce que d'habitude, les événements, ils sont techniques. Il y a des présentations sur les dernières innovations. Là, c'est vraiment des industriels qui parlent aux industriels de leur retour d'expérience concrète de l'utilisation de solutions en réalité augmentée et réalité virtuelle dans leurs usines ou pour répondre à leurs enjeux manufacturiers. C'est bien ça ?
Ah, c'est complètement ça. L'idée, hein, c'est de voir, toucher, comprendre et surtout, comme vous le dites, hein, d'échanger avec des industriels qui ont déployé. Et évidemment, ils ont rencontré des problèmes. L'idée, c'est d'échanger dessus, mais ils ont aussi des réussites. Et c'est ces réussites qui vont inspirer les autres. Nous, l'effet boule de neige, c'est ce qu'on recherche. On ne veut pas se pesantir sur qu'est-ce qui fait que ça ne va jamais marcher. L'industrie française, elle sera puissante et performante, donc elle ne délocalisera plus du moment où ses processus en usine seront top-notch et avec des experts qui auront acquis des compétences qui aujourd'hui ne sont pas là. Donc tout ça, tout l'événement, il est bâti sur cette pensée-là.
Je sais que vont témoigner Volvo Group et EDF. sur leur retour d'expérience de mode opératoire de maintenance. Alors typiquement EDF, hein, c'est dans les centrales nucléaires. Et comment, grâce à l'innovation, encore une fois, ils sont plus efficaces sur les opérations de maintenance qu'ils peuvent effectuer. Et c'est là qu'on parle d'efficacité et de productivité.
Complètement. En plus, là, Volvo Group et EDF sont deux industries complètement différentes. Une très process, hein, EDF, et l'autre très manufacturière d'assemblage, qui est le Volvo Group. Et là, ils vont échanger les deux sur comment faire pour que, par exemple, quand on fait intervenir des techniciens de maintenance ou d'autres types d'opérateurs, on les supporte au maximum pour que ces gens-là puissent faire le bon geste, soit de maintenance, soit d'assemblage, soit de contrôle qualité. En fonction de l'énorme variante de personnalisation de produits qui peut exister. Ce sera certainement passionnant de les écouter, et c'est des structures qui ont, eux, déjà implémenté. Hein.
Je pense que nos auditeurs, ils comprennent bien, justement, que vous arrivez bien à polliniser votre savoir-faire, et à le faire savoir à un maximum d'industriels. En guise de conclusion, Bertrand, est-ce que vous avez un message principal ? Vous savez, on parle souvent aujourd'hui d'industrie 4.0, d'intelligence artificielle, hein, qui sont des corollaires à la continuité numérique, à la réalité augmentée, à beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui, hein, à la transformation digitale. Donc, quelle est votre approche par rapport à ça ?
Bah, le tout premier, c'est la sélection du bon cas d'usage. Il n'y a rien de plus important, ça paraît bébête, hein, ça paraît basique, mais la technologie seule ne fait rien. Et en effet, la force, c'est de pouvoir trouver le cas d'usage sur lequel, à la fois, il va y avoir les bons experts, le bon retour sur investissement final, le bon vecteur transformation. Le risque, c'est de faire une transformation digitale réussie sur la machine à côté de la porte par laquelle le patron passe chaque jour. Et ça, généralement, c'est un flop. Donc, il y a un effort à faire pour se concentrer sur le bon cas. Ça, c'est mon premier message.
Embarquer les utilisateurs.
Tout à fait, en ayant une sélection initiale du cas de transformation qui soit adéquate. Le deuxième cas, le deuxième élément, c'est la question de la transformation humaine. Elle est trop souvent passée sous silence au profit de la transformation technique aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'à force de répétition, de projet, on montre qu'on peut vraiment retourner la crêpe, retourner la table et y aller dans cette direction. Et enfin, le troisième point, c'est le virage de la sustainabilité qui implique que les industriels soient conscients de leur rôle clé dans la transformation écologique. Voilà. Et je trouve qu'on stigmatise trop les industriels aujourd'hui comme soit des pollueurs, soit des grands méchants. Alors que ce sont aussi des hommes et des femmes qui, le soir, quand ils rentrent dans leur famille, ont des discussions avec leurs ados, qui leur posent des vraies questions à travers leur propre industrie. Donc, ils ont un rôle clé, et je vous prie de croire qu'ils sont prêts à transformer.
Aussi, pour boucler la boucle, hein, c'est le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors moi, j'ai appris que c'était Aristote qui l'avait dit, donc c'est pas nouveau. Hein, l'industrie nopsie, elle n'est pas nouvelle. Mais aujourd'hui, notre rôle, justement, c'est d'accompagner ce changement et de la rendre plus humaine, plus efficace. En guise de conclusion et...
Oui, garder l'ADN pour mieux se transformer.
Merci Bertrand de nous avoir partagé les retours d'expérience de la ruche industrielle, de nous avoir permis de mieux comprendre ce que c'était et son apport. On se retrouve au XRDES le 17 et le 18 octobre prochain à Lyon. Donc je laisse aux auditeurs le soin de s'inscrire. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain podcast Où va l'industrie ?
Merci Sébastien, bonne journée.